Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à tous et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Mes très chers frères, en ce 15e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous encourage. Elle nous dit, et vous venez de l'entendre par la parole de Saint Paul, elle nous dit que nous avons encore le temps de faire le bien. Ce bien, nous devons le faire à tous, et spécialement à nos frères, c'est-à-dire les domesticos fidei, les membres de la famille des croyants, la famille de la foi, plus précisément. Ce bien, mes très chers frères, que nous devons faire, nous devons le connaître, nous devons en savoir la nature et la fin. Et qui dit bien dit aussi mal. Savoir faire le bien, c'est savoir avant tout et parallèlement s'abstenir du mal. Et c'est ce que nous aurons à voir, mes très chers frères. Nous aurons à voir, premièrement, le tableau que la messe d'aujourd'hui nous fait de l'homme livré à ses propres forces et le tableau de l'ignorance du pécheur. Ensuite, nous aurons à voir le bien, ce fameux bien, ce bien qui se fait par l'opération de la grâce. Et nous aurons à voir quel est le bien de l'homme. Et enfin, nous verrons dans quel but nous recevons la grâce et ce que nous devons en faire avec l'aide de cette même grâce. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
En ce temps-là, Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm, et ses disciples allaient avec lui, ainsi qu'une foule nombreuse. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Et il y avait beaucoup, avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, à sa vue, fut touché de compassion pour elle et lui dit, ne pleurez pas. Puis il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le mort se mit sur son séant et commença à parler. Et Jésus le remit à sa mère. C'est aujourd'hui, mes très chers frères, dans l'Évangile, le miracle, le miracle de notre Seigneur à Naïm, c'est l'une des trois résurrections des morts que notre Seigneur a opérées dans l'Évangile, enfin en tout cas qui sont rapportées dans l'Évangile. Vous savez, il y a la fille de Jaïr, et il y a Lazare, son ami, et il y a bien sûr le fils de la veuve de Naïm. Mes très chers frères, les pères, dans cet Évangile, lorsqu'ils interprètent cet Évangile, sont unanimes. Ils reconnaissent dans ce mort, dans ce jeune homme mort, qui est porté par des porteurs, dont le cercueil est porté par les porteurs, ils reconnaissent la figure saisissante du mort spirituel, c'est-à-dire du pécheur. Que reste-t-il au pécheur, mes très chers frères, après qu'il ait péché, sinon le constat que de son propre fond, il ne peut tirer que la force et la volonté de pécher encore. Celui, dit le proverbe profane, celui qui a bu, boira. Celui qui a péché, péchera. Celui qui pêche est semblable à celui qui commence à dévaler une pente dans une montagne ou ailleurs sur une dune, et d'une certaine manière, il aurait bien la volonté de s'arrêter, mais ses jambes le portent. Il y a comme un réflexe, un mécanisme qui l'empêche en quelque sorte autant que possible de se casser les jambes, et donc ses jambes courent à toute vitesse jusqu'au bas. Et même s'il arrivait à maîtriser ses jambes et à arrêter ce processus de course, eh bien c'est la pente elle-même qui le porterait jusqu'en bas, puisque tout simplement, il roulerait jusqu'au bas de la pente, et que Dieu le garde, mais il se fracasserait au bas de la pente. Ainsi est le pécheur. Le pécheur, c'est le juste qui a mésusé de la grâce et qui a perdu la grâce. Le pécheur, c'est donc le chrétien qui pouvait ne pas pécher et qui a choisi de pécher. C'est celui qui avait la grâce, qui faisait qu'il pouvait ne pas pécher, et qui finalement a rejeté la grâce de telle sorte qu'il a péché. Avec la grâce, nous avons la force suffisante pour ne pas pécher. Si nous péchons, c'est que nous n'utilisons pas la grâce, mais la grâce, nous ne la gardons pas en poche comme un ticket qu'on n'a pas utilisé ou un billet qui est pour quand on en aura besoin. Une fois qu'on l'a refusée, elle se dérobe à nous et plus précisément, nous nous dérobons à elle. S'il éprouve néanmoins, ce pécheur, une attirance vers Dieu, parce qu'il est vrai que quand le chrétien pêche, surtout le bon chrétien, et qu'il perd la grâce, il ne tombe pas forcément directement dans les abysses de l'athéisme. Il y a un temps où le chrétien prend conscience de ce qu'il fait, et même s'il continue à le faire, il sait que ce qu'il fait est mal, et quelque part, dans le fond de son cœur, il y a quelque chose qui demeure une attirance vers Dieu. Eh bien, s'il se trouve qu'il est dans ce cas, et qu'il ne s'est pas laissé entièrement emporter par le péché, eh bien, c'est que ce n'est que par l'amorce de la contrition, c'est-à-dire de la détestation de ses péchés pour l'amour de Dieu. Si nous avons encore, lorsque nous péchons et que nous avons perdu la grâce, quelque chose qui nous fait tendre vers Dieu, c'est que, d'une certaine manière, nous n'aimons pas la situation dans laquelle nous sommes. Celui qui tombe à l'eau, que Dieu nous garde, mais celui qui tombe à l'eau, sans l'avoir fait exprès, a envie de vivre. Et donc il se débat et il tend vers l'air, il tend vers la surface de l'eau, il tend même vers la terre, et il fait tous ses efforts pour revenir vers la terre. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, il a le désir de vivre. Le malheureux qui se suicide, il se jette à l'eau, et comme il a perdu le désir de vivre, eh bien, il coule au fond et il meurt. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus en lui le désir de vivre. D'où nous vient ce désir de vivre selon, d'être vivant selon Dieu ? Il nous vient de quelque chose que la théologie appelle une certaine rémanence de la grâce en nous. Nous y reviendrons. L'homme pécheur, nous dit un auteur, l'homme pécheur est un cadavre porté par les démons. C'est la concupiscence qui anime son âme, et ses actions sont semblables, dit cet auteur, aux vampires, qui sont des charognes dans lesquelles s'incorpore le démon pour un certain temps, et de telle sorte qu'elles ont l'air vivantes alors qu'elles sont mortes. Ce sont des choses qui arrivent, heureusement que c'est assez rare, mais ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses monstrueuses évidemment, mais d'une certaine manière, les théologiens nous disent que le pécheur n'est pas très différent d'un vampire, c'est-à-dire d'un cadavre animé par un démon. Le pécheur est véritablement décrit par ce jeune homme mort. Vous voyez, si c'est un jeune homme qui est mort, c'est différent que si c'est un vieillard. Le vieillard est arrivé à la fin de sa vie, et la vie s'est retirée de lui parce que elle ne pouvait plus vivre dans un corps qui n'était plus compatible avec le maintien de la vie. Mais là, c'est un jeune homme. Donc c'est une mort qui est une mort ou bien accidentelle, ou bien une mort de maladie fulgurante. Enfin, c'est quelqu'un qui normalement devrait vivre et qui ne vit plus. C'est exactement la description du pécheur. C'est normalement le chrétien pécheur. C'est normalement quelqu'un dont l'organisme est fait pour la grâce, et c'est quelqu'un dont l'organisme fait pour la grâce, ne recevant plus la grâce, est mort. Il est mort et il bouge encore, si vous me permettez l'expression, parce qu'il est porté, par des porteurs, et ces porteurs, nous disent les auteurs, vous avez compris, ce sont les démons. Alors, il y a démons et démons, évidemment, on ne devient pas forcément possédé dès que l'on pêche, même si on se met en position, justement, d'avoir des ennuis avec le démon, plus précisément, plus spécifiquement, mais disons qu'il se trouve que si ce n'est plus la charité qui nous meut, alors qu'est-ce que c'est ? C'est le démon, et si ce n'était que le démon, si on peut dire, ça, on s'en tirerait pas trop mal. Mais en réalité, c'est la concupiscence qui est bien pire que le démon. Le démon est un ange déchu qui ne veut du mal et qui fait des choses de l'extérieur. La concupiscence, c'est la déchéance même de l'homme. C'est le fait que, fait pour Dieu, il vit pour lui-même. Donc le démon est une malheureuse créature déchue, et mauvaise, et méchante, et qui nuit aux chrétiens, et qui nuit aux hommes en général. Mais c'est une créature indépendante de l'homme. La concupiscence n'est pas indépendante de l'homme. Vous ne pouvez pas prendre l'homme et l'exorciser de sa concupiscence. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Vous pouvez prendre un homme habité de plusieurs démons, même d'une légion de démons, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le démon est chassé. Mais il n'y a pas d'exorcisme dans l'Église contre la concupiscence. La concupiscence est donc bien pire qu'un démon, puisqu'elle se confond avec l'homme tant que l'homme s'aime lui-même. C'est pour cela que le pécheur, celui qui a cédé à sa concupiscence et qui n'en a fait qu'à sa tête et qui a perdu la grâce, eh bien, est représenté par ce jeune homme qui est mort et qui pourtant est porté, qui se meut, mais il se meut parce qu'il est porté par quelque chose qui lui est extrinsèque. Alors vous allez dire, vous venez de dire que la concupiscence est intrinsèque. Justement, elle est intrinsèque, mais elle ne fait pas réellement partie de ce que nous sommes par le baptême. À moins que le baptême ne signifie rien et n'opère rien en nous, que Dieu nous garde. Évidemment, d'une telle stupidité. La concupiscence se confond avec la volonté propre de l'homme. Or, nous allons voir, mes très chers frères, que l'homme n'est pas fait pour suivre sa volonté propre, mais la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est ce qui tient lieu véritablement de vraie volonté libre de l'homme. Le pécheur est dans l'impuissance de faire le bien, car la grâce l'a déserté. S'il crie vers Dieu, et c'est le cri de l'introïte, « Inclinez Seigneur votre oreille et exaucez-moi, sauvez votre serviteur, ô vous qui êtes mon Dieu, j'espère en vous, ayez pitié de moi Seigneur, car je crie vers vous tout le jour. » Ça peut être le cri du pécheur, mais déjà du pécheur repentant. Le pécheur animé non plus tellement par la concupiscence encore, mais il est toujours animé que par la concupiscence tant qu'il n'est pas animé par la charité, mais il est animé par quelque chose qui tient déjà de la charité, et c'est nous en avons parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, et c'est la contrition. La vraie contrition est déjà une amorce de charité. Pourquoi ? Parce qu'elle est le déplaisir très vif d'avoir contristé un Dieu infiniment aimable. Donc si on est triste d'avoir offensé un Dieu infiniment aimable, c'est que déjà on commence à l'aimer, ce Dieu, ou qu'on regrette de ne pas l'aimer, ce qui est déjà une forme d'amour. Le pécheur, lorsqu'il crie vers Dieu, eh bien, s'il crie vers Dieu, et cela arrive, vous allez dire, ça arrive tout le temps, quand je pêche et que je perds la grâce, eh bien, je crie vers Dieu et je désire me confesser. C'est très bien, Deo gratias. Pensez-vous à remercier Dieu pour cette amorce. Si le pécheur crie vers Dieu, c'est que le Christ est en train de s'approcher de lui. C'est qu'il est porté par le démon vers le lieu de sa sépulture, c'est-à-dire vers l'enfer, et en face vient notre Seigneur et ses apôtres avec une foule nombreuse d'intercesseurs. Je vous renvoie à ce que nous avions dit à propos de ce passage l'année dernière. Mes très chers frères, faisons très attention à la présomption. Il nous semble que nous sommes tellement chrétiens que s'il nous arrive de pécher mortellement, le fond chrétien nous fait désirer le sacrement de pénitence et nous fait réintégrer finalement la grâce que nous avons perdue. Ce n'est pas aussi simple que ça, mes très chers frères. S'il se trouve que nous avons en nous la contrition, s'il se trouve que nous avons en nous quelque chose qui nous porte vers Dieu et qui excite en nous le désir de nous confesser et de renoncer à notre vie, c'est parce que le Christ s'est approché de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes tellement chrétiens que la foi est chevillée à notre corps, à notre cœur, et qu'il est impossible que nous soyons autre chose que chrétiens, donc même si nous tombons, nous nous relevons parce que nous sommes intrinsèquement chrétiens. C'est peut-être l'impression que nous en avons, et c'est plutôt bon signe dans le sens où ça veut dire que la foi a profondément pénétré dans notre cœur. Néanmoins, une fois que nous avons dit cela, ce que je viens de dire, c'est déjà de la présomption. Si je pêche mortellement, il ne me reste strictement plus rien si le Christ, dans son infinie miséricorde, ne s'approche pas de moi. Ce que nous avons appelé d'une certaine rémanence, d'une certaine grâce actuelle dans le pécheur, est comparable, nous disent certains auteurs, à l'odeur du parfum dans un flacon qui est déjà vide. Quand un flacon est plein de parfum, vous ouvrez le flacon, ça sent le parfum, c'est normal, il y a du parfum dedans. Lorsque le parfum a totalement été épuisé et que le flacon est totalement vide, il y a encore pendant un certain temps l'odeur du parfum dans le flacon. De telle sorte que même si le flacon est vide, on le débouche et on peut savoir quel parfum était dedans puisque le parfum a imprégné le flacon. Mais entre une odeur, un parfum rémanent, c'est-à-dire qui demeure, qui reste, et un flacon plein de parfum, il y a quand même une très grande différence. La grande différence, c'est que le parfum, tant qu'il existe, embaumera l'atmosphère, tandis que la fragrance qui reste de la présence passée du parfum finira par s'en aller. Donc, vous voyez, mes très chers frères, chaque fois que nous péchons et que nous perdons la grâce, si nous trouvons en nous-mêmes une force pour nous ramener vers la justice, c'est que le Christ, d'une façon spécifique, nous a accordé la grâce de la repentance. S'il ne nous l'avait pas accordé, nous serions comme ces autres pécheurs, qui sont aussi relativement nombreux, et qui, une fois qu'ils ont péché, méprisent, comme dit l'Écriture, et finalement tombent de péché en péché et s'éloignent totalement de l'Église et de toute pratique. Le pécheur, symbolisé par, représenté par ce fils de la veuve de Naïm, porté par les porteurs, le pécheur est dans l'ignorance de son état actuel la plupart du temps. Même si nous avons conscience que nous sommes pécheurs, ne nous sentons pas, et que nous sommes déchus de la grâce, ne nous sentons pas, sur ce que je viens de dire, ne nous sentons pas dans une certaine assurance de savoir au moins que nous savons que nous sommes pécheurs. Si nous savons que nous sommes pécheurs, c'est que nous avons reçu la grâce de prendre conscience que nous sommes pécheurs. Si nous n'avons pas reçu cette grâce, nous ne prendrons pas conscience de ce que nous sommes devenus. Un auteur nous dit « Le pécheur est tellement mort qu'il n'en sait rien. Et quoi qu'il est semblable aux morts qu'on porte dans un cercueil, il est en cela plus misérable encore parce qu'il croit faussement qu'il est vivant. » Le pécheur qui a péché et qui dit « Oh, je trouve une force en moi qui me fait rechercher le sacrement de pénitence parce que je suis profondément chrétien », c'est un pécheur qui n'est pas conscient de sa situation réelle. S'il trouve effectivement une force en lui qui le pousse vers la pénitence, c'est parce que le Christ lui a donné cette grâce. Si le pécheur n'avait pas reçu cette grâce, il ne se rendrait pas compte de son état et il se dirait « Finalement, ce que j'ai fait n'est pas si grave ». Il suffit d'avoir la contrition, et puis c'est fini, vous voyez. Et puis, le pécheur, de fil en aiguille, tomberait dans un péché plus grand et finirait par apostasier complètement. Pourquoi tirons-nous cette conclusion de l'état catastrophique du pécheur? C'est parce que saint Paul, dans l'Épître, nous dit « Car l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans sa chair, de la chair moissonnera la corruption. » Semer dans la chair, c'est faire des œuvres charnelles, c'est les œuvres de la concupiscence, et c'est faire des œuvres qui méritent d'obtenir une moisson conforme à la semence que nous avons jetée. Si c'est une semence de péché, nous moissonnerons le péché. Il y a donc un état épouvantable du pécheur qui, mu par la concupiscence, ne fait plus rien par la charité. Un auteur nous dit « Comment attendre de Dieu et lui demander une récompense éternelle qu'on aura méprisée durant sa vie, pour laquelle on n'aura rien voulu faire et dont on se sera même rendu indigne en se livrant au péché et en suivant ses inclinations charnelles ?» Le chrétien qui doit faire le bien doit savoir que de lui-même, il est incapable de tout bien, car livré à ses propres forces, il ne fait que mépriser la grâce, la rejeter et tomber dans le péché mortel, de telle sorte que si dans cet état de péché mortel, Dieu lui-même, le Christ, ne lui donne pas sa grâce, il tombera toujours plus loin et un jour moissonnera ce qu'il a semé dans sa chair, c'est-à-dire il moissonnera la mort éternelle. C'est pour cela que dans la post-communion, la dernière prière de la dernière oraison de cette messe, nous dirons ceci à Dieu. Soyez-en bien conscients, parce que vous la prierez avec le prêtre tout à l'heure. Que l'action pénétrante du don céleste s'empare de nos âmes et de nos corps, Seigneur, afin que ce ne soit pas notre sens à nous, mais son influence à lui, qui sans cesse prédomine en nous. Nos âmes et nos corps sont possédés par le démon de la concupiscence. C'est une façon de parler, la concupiscence est pire que le démon. Mais par le démon de la concupiscence qui la meut. Tant que le don céleste ne les possède pas par son opération. Là où le sens propre, l'amour propre, la volonté propre domine, la grâce est exterminée. Évidemment, on va se poser la question, cela veut-il dire que l'homme est une sorte d'automate mû par la grâce, de telle sorte que, recevant la grâce, il fait, sous l'impulsion de la grâce, des choses qu'il n'aurait pas la moindre, pas la moindre idée de faire autrement. La réponse est, bien sûr, non. L'homme n'est pas un automate mû par la grâce, parce que Dieu n'a pas créé des automates auxquels il reprocherait de ne pas faire sa volonté. De toute façon, les automates doivent être montés et animés par leur propriétaire. Donc évidemment, Dieu a créé l'homme libre, c'est-à-dire capable d'accomplir sa raison d'être. Mais l'homme est déchu. Désormais, l'homme n'est plus libre, c'est-à-dire il n'est plus libre que pour le péché. Certes, le païen, le non-baptisé, le chrétien apostat, est libre de choisir, de faire des choix. Est-ce que je suis en colère contre mon prochain ou est-ce que je le tue? Je vais plutôt choisir de me contenter d'être en colère contre lui. C'est bien, j'ai fait quelque chose de meilleur que de le tuer. Voilà un choix que l'homme est tout à fait capable de faire. Maintenant, le choix entre est-ce que je lui pardonne pour l'amour de Dieu ou est-ce que je me mets en colère contre lui et je lui en veux à mort, même sans le tuer, ça, ce choix-là, nous ne sommes capables de le faire aujourd'hui dans l'état de déchéance que par la grâce de Dieu. La grâce du réparateur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut absolument la grâce parce que nous sommes si malades, si esclaves que nous ne pouvons pas faire le bien par nos propres forces. Nous ne sommes plus en état d'innocence, c'est fini. Il nous faut maintenant la grâce du libérateur, la grâce du sauveur. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie cette post-communion? Que l'action pénétrante du don céleste s'empare de nos âmes et de nos corps, Seigneur, afin que ce ne soit pas notre sens à nous, mais son influence à lui, qui sans cesse prédomine en nous. Nous demandons à Dieu qu'il nous restitue à nous-mêmes, c'est-à-dire à lui. Nous demandons à Dieu qu'il nous restitue notre liberté, qui consiste à pouvoir faire sans entrave ce que nous sommes supposés faire. Et alors vous allez dire, qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Nous sommes supposés vivre à la gloire de Dieu et glorifier Dieu dans toutes nos actions, c'est-à-dire accomplir notre devoir d'État dans toutes ces diverses tâches, sous la motion de la charité, pour l'amour de Dieu, et cela étant vérifié par l'amour du prochain. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que cette liberté que nous perdons lorsque nous péchons mortellement, c'est la liberté, non pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que Dieu a voulu que nous fassions en créant l'homme, c'est-à-dire que nous le glorifions. C'est pour cela que dans le graduel, il est dit ceci, « Bonum est confiteri domino, il est bon de louer le Seigneur, de chanter votre nom au Très-Haut, de publier le matin votre bonté et votre fidélité durant les nuits. » Le bien de l'homme, mes très chers frères, et de louer le Seigneur jour et nuit. La nature de l'homme est faite pour Dieu. Il n'existe pas de fin naturelle à l'homme. L'homme a une fin surnaturelle parce qu'il a été créé, il a été formé, façonné directement par Dieu pour Dieu. L'homme sans Dieu peut se trouver des fins naturelles, le bonheur temporel, la société bien organisée, que sais-je. Et ce sont effectivement ce que nous appelons des biens ou des fins transitoires, intermédiaires. Ce sont des fins, mais ce sont des fins intermédiaires qui ne sont pas la fin ultime de l'homme. La fin ultime de l'homme est surnaturelle, c'est Dieu. Le bien de l'homme, c'est de louer Dieu nuit et jour. La nature de l'homme est faite pour Dieu, le surnaturel est nécessaire à l'homme, sans quoi l'homme est moins qu'un homme. Le bien du cadavre, qu'est-ce que c'est le bien du cadavre? Eh bien, le bien de ce cadavre de jeune homme qui était porté vers la tombe, c'était la vie. Or, il faut que le Christ s'approche et ordonne à notre âme morte de vivre, de telle sorte que, lui faisant faire ce qu'elle est incapable de faire, c'est-à-dire revivre, il la restitue à ses propres forces, qui sont les forces qu'elle tient de Dieu. Lorsque l'homme est livré à ses propres forces, et que l'on fait abstraction de la vie qui l'anime, l'homme devient incapable de faire quoi que ce soit, et même cet homme incapable de faire quoi que ce soit, n'importe qui l'appelle par son nom propre un cadavre. L'homme sans la grâce est un cadavre. Il n'est capable que d'être porté par les démons et par la concupiscence. En revanche, l'homme qui est ressuscité par la grâce devient véritablement un homme, et si le cadavre d'un homme n'est pas autre chose qu'un homme, on ne peut pas dire qu'un homme c'est un cadavre qui vit. C'est beaucoup plus. C'est le cadavre fait horreur à l'homme vivant. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus que la coquille d'un homme. Vous voyez, ce n'est plus que la forme extérieure, ce n'est plus que quelque chose de l'homme, quelque chose de fondamental s'est enfui de l'homme, c'est-à-dire son âme, la vie. Il nous faut donc que Dieu nous donne sa grâce afin que nous puissions faire les opérations propres de l'humanité, sachant que le bien propre de l'homme, c'est de vivre à la gloire de Dieu. C'est à la fois sa fin et son bien. Dans l'introïte, la deuxième partie de l'introïte, il est dit ceci: « Réjouissez l'âme de votre serviteur, car vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. Laetifica animam servitui, quia a te domine animam meam levavi. » Réjouissez votre âme, réjouissez l'âme de votre serviteur, parce que votre serviteur élève son âme à vous. Élever son âme à Dieu, mes très chers frères, c'est se détourner de son propre sens, c'est se détourner de l'amour de soi, c'est se détourner de la concupiscence qui nous pousse vers la terre. C'est recevoir la joie de Dieu. Réjouissez l'âme de votre serviteur, car vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. Vous voyez, il y a une sorte de, comme dit la liturgie, un divin échange, un divin commerce. Nous élevons notre âme loin de nous vers Dieu, et Dieu nous donne à notre âme sa joie. C'est-à-dire le complément de toute vraie liberté. Si vous êtes libre et que vous êtes triste, vous n'êtes pas dans une pleine liberté. Si vous êtes esclave, vous êtes triste, évidemment, parce que vous n'avez pas la liberté. Donc, si vous avez la liberté, vous avez aussi la joie. Mais la joie ne vient qu'à ceux qui élèvent leur âme vers Dieu, de telle sorte que Dieu puisse s'emparer de cette âme et que l'opération du don céleste s'empare de l'âme et du corps et prime sur le sens propre. Hein, c'est toujours la post-communion. Élever son âme à Dieu, je le répète, c'est se détourner soi-même de son sens propre. C'est recevoir la joie de Dieu et c'est d'être dans un état, je ne dis pas surnaturel, un état normal. Un état normal, l'état normal de l'homme, c'est-à-dire la capacité de glorifier Dieu par l'obéissance aux divers devoirs que la même providence nous a donnés. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Évangile, notre Seigneur dit: jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le mort se mit sur son séant et commença à parler. Et il est dit, et dedit illum matrisue. Et Jésus le rendit à sa mère. Il le rendit à sa mère. Nous ne recevons pas la grâce pour en faire ce que nous voulons. D'ailleurs, c'est la raison, la plupart du temps, c'est la raison pour laquelle nous perdons la grâce. Dieu nous donne sa grâce, nous recevons l'absolution sacramentelle, c'est très bien. Et nous n'en faisons qu'à notre tête, nous faisons, je ne sais pas, nous faisons des choses pour Dieu ou pour nous-mêmes ou qui nous semblent plus ou moins licites, etc. Nous n'en faisons qu'à notre tête, nous tombons donc très rapidement dans le péché, ou alors nous ne nous en rendons même pas compte, mais nous perdons la grâce. Dieu nous ressuscite notre âme, pour la rendre à sa mère, c'est-à-dire à l'Église, nous disent les pères. Le Christ a rendu l'âme à l'Église, afin, nous dit un auteur, que cette âme, entre autres choses, commence à intercéder avec l'Église pour les autres morts. Si nous sommes morts et que nous sommes restitués à la vie, c'est pour que nous intercédions en tant que membres vivants de l'Église pour les membres morts de l'Église. Chaque fois que nous recevons l'absolution et que nous sommes réintégrés dans l'état de grâce, est-ce que nous avons une pensée pour nos frères qui sont morts, pour nos frères qui sont en état de disgrâce, pour nos frères qui sont en état de péché mortel? Alors bien souvent, si, on y pense, mais on dit « Je vous remercie, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme ces gens qui sont dans le péché mortel. » Nous devrions plutôt dire « Seigneur, mon Dieu, je serai encore de ceux qui sont dans le péché mortel si vous ne m'aviez donné la grâce et un prêtre pour me conférer l'absolution. » Il nous faut donc, mes très chers frères, agir au sein de l'Église. Et une des premières tâches des chrétiens, du chrétien, c'est d'intercéder pour ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce, afin qu'ils la reçoivent. La clé de tout ceci se trouve dans le verset alléluiatique. « Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine sur toute la terre. Alléluia. » C'est le triomphe de la grâce, mes très chers frères, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes face à ce Dieu qui nous aime tant et qui a donné son Fils afin que nous puissions vivre à sa gloire. Dieu est le Dieu des vivants, nous dit saint Paul, et non pas le Dieu des morts. L'approche du Christ et l'opération ressuscitante de sa grâce, c'est cela qui nous rend la vie, et cette vie, nous la recevons pour que nous puissions être rendus à notre mère. Historiquement parlant, cette veuve était éplorée parce que c'était son fils et son fils unique qui étaient portés en terre, et de telle sorte que vous savez que l'état des veuves qui ont un seul fils et dont le fils disparaît est un état de très grande précarité. Si l'église, si la charité, l'aumône ne vient pas à leur secours, elle tombe dans un état de très grande faiblesse. Notre Seigneur a restitué à cette veuve son fils, afin que son fils prenne soin d'elle. C'est une des premières tâches que les enfants doivent avoir vis-à-vis de leurs parents, de prendre soin d'eux, et c'est saint Paul qui nous l'apprend, et c'est le béaba de la piété. Donc il se trouve, mes très chers frères, que notre Seigneur a rendu ce jeune homme ressuscité à sa mère afin qu'il prenne soin d'elle. Et ce n'est pas que nous avons besoin de prendre soin de l'Église comme si elle était une veuve faible et sans ressources, bien entendu, ce n'est pas cela, mais afin que nous participions à ses travaux. Et le grand travail, la grande œuvre de l'Église, c'est d'intercéder pour les pécheurs, d'intercéder pour ses membres morts, pour ses enfants morts. Dans l'offertoire, nous disons ceci, le psalmiste dit ceci, « J'ai mis toute mon attente dans le Seigneur, et il s'est incliné vers moi, et il a exaucé ma prière. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne à notre Dieu. » Il est impossible, mes très chers frères, lorsque nous sommes restitués dans l'état de grâce, de ne pas être reconnaissants. S'il y a une absence de reconnaissance, car tout peut arriver malheureusement, c'est la marque que l'on s'imagine que, d'une manière ou d'une autre, la restitution de l'état de grâce est due à notre bon fond chrétien, et pas à la grâce. Et c'est la marque que tout ce que l'on fait, on le fait par soi-même, et que l'on est porté par le démon. Et c'est pour cela que, curieusement, aujourd'hui, saint Paul nous dit dans le début de l'Épître, « Ne devenons pas avides de vaine gloire, nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. » Souvent, il y a, spécialement chez les jeunes convertis, une sorte de compétition à qui sera le premier à nouveau dans l'état de grâce et qui y restera le plus longtemps. Et alors, on regarde son prochain, on allume son radar à grâce, et on essaye de voir si son prochain est en état de grâce, on essaye de voir qui communique, qui ne communique pas, on essaye de détecter par des micro-expressions sur le visage, qu'on aura vu sur l'internet d'ailleurs, des tutos pour analyser le prochain, on verra qui est en état de grâce, qui n'est pas en état de grâce, sachant que moi-même je suis en état de grâce, et si je n'étais pas, eh bien je ferai vite usage du sacrement de pénitence pour réintégrer vite l'état de grâce. Ce qu'on oublie un petit peu vite, c'est que l'état de grâce, ça se réintègre si Dieu veut, c'est-à-dire si le prêtre veut. Si le prêtre ne veut pas vous donner l'absolution, parce qu'il trouve que vous n'êtes pas assez contrit, parce que vous n'avez pas assez manifesté de disposition à changer réellement de vie, il ne vous donnera pas l'absolution, il en a totalement le droit. Vous allez dire, mais et mon état de grâce ? L'état de grâce, comme son nom l'indique, mes très chers frères, est une grâce. Et c'est une grâce beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas un droit. Sous un certain rapport, c'est le droit des enfants de Dieu, mais des vrais enfants de Dieu, pas des enfants de Dieu qui sont tout le temps en train de jouer avec la grâce et de la perdre. Donc, il se trouve que l'état de grâce, comme son nom l'indique, est une grâce, et que si on a vraiment reçu la grâce, il faut rendre grâce, c'est-à-dire être reconnaissant, ne pas être ingrat. Saint Prosper dit « Ceux qui sont ingrats sont ceux qui reçoivent la grâce en pensant que c'est quelque chose qui leur est dû ou qui vient d'eux-mêmes. » Si nous sommes en état de grâce, ou s'il nous semble que nous sommes en état de grâce, et que nous ne vivons pas selon la reconnaissance, c'est que nous sommes mus par notre sens propre et que cela correspond au fait que nous sommes un cadavre porté par le démon, par les démons. Ne devenons pas avides de vaine gloire, mes très chers frères. Souvenons-nous que de nous-mêmes, nous ne sommes que péché, que de nous-mêmes ne vient que le péché. Tout le bien que nous faisons vient de la grâce qui agite en nous et qui nous permet de faire ce que nous devons faire en tant qu'humains libres. Tout ce que nous faisons de mal vient du fait que nous sommes potentiellement, depuis la chute, un pauvre cadavre animé par le démon de la concupiscence. La reconnaissance nous fait opérer par la grâce. C'est pour cela que saint Paul dit, Celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit moissonnera la vie éternelle. L'opération de la charité s'exerce sur tous, nous dit saint Paul, mais surtout sur les frères. C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la famille des croyants. Bien sûr, il faut faire du bien à tous, autant que nous sommes possibles, autant que cela nous est possible, parce que tous les hommes sont potentiellement des chrétiens, puisqu'ils peuvent être, dans la mesure où ils sont hommes, ils sont capables de recevoir le baptême, de recevoir la grâce, etc. Donc potentiellement, nous devons faire du bien à tous les hommes, car ils peuvent se convertir. Mais surtout, nous devons faire du bien à ceux qui sont de la famille des croyants. Aux domesticos fidei, à ceux qui, comme nous, sont les serviteurs et les enfants de Dieu. Il faut, par l'amour fraternel que nous manifestons envers nos frères, élever nos âmes à Dieu, de telle sorte que nous les détournions de nous-mêmes, car il peut y avoir des frères pénibles, des prochains pénibles, etc. Nous devons élever nos âmes vers Dieu, afin qu'il nous remplisse de la joie surnaturelle qu'éprouvent ceux qui sont véritablement libérés pour faire le bien. Détournons-nous de nous-mêmes, mes très chers frères, aimons nos frères, et c'est ainsi que nous ferons bon usage du temps qui nous est donné, c'est ainsi qu'avec l'aide de la grâce de Dieu, nous ne nous lasserons pas, et que le moment venu, nous moissonnerons la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.